Philippe, rappelle pour les gens qui viendraient de se joindre à nous que le grand golfeur Tiger Woods a été impliqué dans un accident de la route.
Oui, un grave accident de la route s'est survenu à 7h12 ce matin, heure de Californie. Il roulait seul dans sa voiture. Il n'y a pas eu de collision avec un autre véhicule, mais il a perdu le contrôle de l'auto et sa voiture est vraiment rentrée dans un champ là, qui longe l'autoroute et elle a fait au moins une centaine de pieds. Et là, les images du véhicule, Patrick, que conduisait Tiger Woods sont vraiment effroyable. L'avant de la voiture est complètement démoli. La voiture repose sur le côté gauche. Alors, on sent que le choc a été d'une brutalité inouïe. Il a fallu faire appel aux pinces de désincarcération pour sortir Tiger Woods du véhicule. Il a été conduit à l'hôpital. Et là, bien, on vient d'apprendre son agent qui a émis un communiqué pour confirmer que c'était bel et bien lui qui se retrouvait dans cet accident. Et il a dit, et là, je reprends les propos du communiqué, qu'il a subi de multiples blessures aux jambes et qu'il est actuellement en salle d'opération. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant. Évidemment, aux États-Unis, c'est l'émoi. C'est partout sur les réseaux d'information et sur les sites Internet. Évidemment, Tiger Woods, c'est un personnage plus grand que nature aux États-Unis. On connaît ses succès extraordinaires, sa descente aux enfers, son retour avec sa victoire au tournoi des maîtres en 2019. Alors, comment un accident comme celui-là peut-il se produire? Je vais simplement mettre en contexte ce qui est arrivé il y a quoi maintenant? C'était il y a 2 ou 3 ans. Un petit peu plus même quand Tiger Woods a été retrouvé. Il était dans son véhicule en Floride à 3h du matin, endormi. Quand la police est arrivée, il a vu ce véhicule-là. Il a dit, bon, c'est qui? Puis ça, bon, il découvre que c'est Tiger Woods. On le réveille. Le moteur roulait. On lui fait passer un test d'alcoolémie. Il était à zéro. Mais il prenait beaucoup de médicaments antidouleurs.
Et il a fallu qu'on sait qu'il y a eu des gros problèmes de dos, Tiger Woods.
Exactement. Et donc, ça lui a causé des problèmes majeurs, cette histoire-là. Après, il est allé pour se faire traiter, pour essayer de devenir moins dépendant à ses médicaments. Cette affaire-là est survenue en 2017. Alors là, aujourd'hui, c'est un accident. Qu'est-ce qui a pu le causer? On l'ignore encore. Pourquoi était-il en Californie? Eh bien, parce qu'il était le patron d'honneur du tournoi de la PGA qui était présenté ce week-end là, à quelques kilomètres de là.
Et bon, Philippe, Tiger Woods a été gravement blessé aux jambes, mais ça t'a rappelé l'histoire du grand golfeur mythique Ben Hogan.
Oui, Ben Hogan, ça a été un des plus grands golfeurs de l'histoire. Il avait 36 ans. Il était vraiment à son sommet. Et il participe à un tournoi en Arizona. Et là, il retourne chez lui au Texas en voiture avec sa femme. Et les conditions sur l'autoroute sont pas très bonnes. En fait, c'est pas une autoroute, c'est une route qui rencontre. Il y a beaucoup de brouillard et il y a un autobus, un gros autobus de transport de passagers qui dépasse un camion et qui rentre carrément dans la voie devant Ben Hogan et la collision est frontale. Et en fait, on raconte que Ben Hogan a vu arriver l'autobus et il a dit à sa femme, il va nous frapper, il peut pas faire autrement. Et là, Ben Hogan s'est jeté vers sa droite pour protéger sa femme. Et le choc a fait en sorte que le devant de la voiture a été écrasé et tout l'axe du conducteur avec le volant, toute cette région-là, est rentré dans le siège qu'occupait Ben Hogan. Mais en allant protéger sa femme, en se pensant
il s'est protégé.
Il n'a pas été touché parce que sans ça, il serait clairement mort. Sauf qu'il y a eu des blessures incroyables, une double fracture du pelvis, fracture de la clavicule, fracture de la cheville gauche, une côte froissée. Il y a eu des problèmes de vision tout le reste de sa vie. Et les gens, les médecins, ils ont dit, bon, un, il est chanceux de ne pas mourir. Deux, on ne sait pas s'il va remarcher. Trois, jouer au golf, oublier ça. Quatre, de redevenir un champion, c'est pas dans les cartes. Ben Hogan a tout fait ça. Il a remarché, il a joué dans la PGA, il est revenu un champion, il a gagné 6 tournois par la suite. En fait, il a gagné 12 tournois par la suite après cet accident-là, dont 6 tournois majeurs.
Mais c'est un peu comme Niki Lauda, quand il a eu son accident de voiture en F1, personne ne pensait qu'il était pour reprendre le volant, puis il est redevenu champion. Donc, c'est des fois assez impressionnant de voir la force d'un être humain, là.
Tout à fait. Alors, au moment où Ben Hogan a eu son accident, il avait 36 ans. Tiger Woods a 45 ans. C'est pas tout à fait la même chose en termes de carrière sportive.
Philippe, je regarde la carcasse de la voiture. Il est sorti vivant de ça, blessure aux jambes. Ça nous rappelle que la technologie, l'évolution du dessin des voitures, les changements de matériaux, les connaissances qu'on a sur les accidents, ça a beaucoup évolué. Et ça aussi, ça contribue à faire que des crashs d'auto qui ont l'air absolument pas survivables, ben le sont maintenant.
Oui, tout à fait. Puis tu sais, bon, j'imagine que les coussins gonflables se sont actionnés au moment de l'impact et c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie. Parce qu'encore une fois, là, les gens qui nous écoutent en voiture, si vous n'avez pas vu d'image encore du véhicule, quand vous allez voir les images, là, c'est vraiment très, très, très inquiétant de voir ça.
Okay. Les assurances, ça fonctionne comment? Quand on dit qu'on va peut-être avoir le terme d'une carrière de quelqu'un qui est dans le sport, j'imagine que ces gens-là sont assurés après pour financièrement pouvoir continuer à vivre?
Ben, disons que Tiger Woods là, a récolté des millions de dollars dans sa vie. Là, pour lui, je pense pas que c'est un problème vraiment. Mais maintenant, les assurances comme ça, ça existe. Ça coûte une fortune. Alors, c'est pas tout le monde qui en prend. Évidemment, assurer contre une blessure qui m'a fait une carrière, c'est généralement une prime qui est très, très salée.
Ouais. OK. Parle-nous d'un gros projet, Philippe, de e-sports, de sport électronique à Toronto.
Oui, je vais vous parler de ça parce que le e-sports occupe une place de plus en plus importante dans le panorama, comment appeler ça, le panorama sportif. faut presque dire ça aujourd'hui. Et voilà qu'à Toronto, il y a une compagnie là, qui s'appelle Overactive Media, dont le président est l'ancien chef de la direction du Comité olympique canadien qui s'appelle Chris Overold. Et c'est une compagnie qui est spécialisée dans le sport électronique. Et écoute bien ça, Catherine. Un des actionnaires de cette compagnie-là, c'est The Weeknd, le chanteur, et également l'ailier, l'attaquant des Maple Leafs de Toronto, Mitch Marner, qui est également un des actionnaires, et un copropriétaire des Penguins de Pittsburgh, un gars un peu moins connu là, qui s'appelle Mike Kimmel, mais qui est à Toronto, c'est quelqu'un là, qui est connu parce qu'il y a énormément d'impact là, dans toutes sortes d'activités économiques culturelles. Alors, eux, leur projet, c'est, et ça donne une idée comment le sport électronique s'est rendu fort, ils veulent construire un amphithéâtre uniquement dédié au sport électronique. Un
pour aller regarder des matchs de jeux vidéo, par
exactement.
Exemple.
Exactement. C'est une tendance très forte. Là, on remplit des stades, il y a des ligues et tout. Et là, ça serait... J'ai vu des photos, il y a eu un magnifique reportage dans le Globe and Mail de Toronto, puis on peut aller également sur le site de la compagnie. Le projet a été développé par la firme Populous, alors le projet architectural. Bien, Populous, c'est eux autres qui développent à peu près tous les stades de baseball dans les ligues majeures. D'ailleurs, le projet, là, le groupe de Stephen Bronfman travaille également avec Populous. Ouais. C'est vraiment une firme, même le centre Vidéotron à Québec, c'était Populous aussi. Donc, c'est vraiment une firme qui est à l'avant-garde. Et là, on raconte que non seulement eux sur le plan architectural, mais on travaille également avec Microsoft et Cisco pour tout l'environnement électronique, parce que on parle de sport électronique. Alors, c'est un projet au total de 500 millions de dollars. Il y aurait ce stade-là qui est magnifique, avec un hôtel qui est à côté. Tout ça, ce serait sur les terrains de l'Exposition nationale à Toronto, où était situé l'ancien stade des Blue Jays de Toronto quand ils ont commencé leur présence dans le baseball majeur.
OK, on a parlé la semaine passée, Philippe, d'un monsieur qui s'appelle Fernando Tatis Jr. C'est un jeune joueur avec les Padres de San Diego. Richissime contrat qu'il a signé. Là, tu veux nous en reparler.
Oui, parce que dans son richissime contrat, comme
combien
tu dis,
déjà?
340 millions de dollars pour 14 ans, à 22 ans, c'est quand même pas mal. Mais lui, c'est un jeune joueur qui vient de la République dominicaine. Et quand il était plus jeune, il a signé une entente avec un groupe qui va voir les jeunes joueurs de baseball majeur, parce qu'on sait que faire une carrière, là, c'est très aléatoire. Il y en a ça va fonctionner, il y en a que ça ne fonctionne pas. Et qui disent, écoutez, tu peux prendre un genre d'assurance avec nous. On va te donner de l'argent. C'est pas un prêt, c'est un don. On te remet de l'argent. Mais en retour, quand tu seras dans les ligues majeures du baseball, tu vas nous donner un pourcentage de tes revenus. Alors, ça fonctionne à peu près. Tu vas nous donner 1% de tes revenus pour chaque tranche de 50 000 $ qu'on va te donner. Alors, des joueurs qui viennent de la République dominicaine, qui regardent ça, qui disent « Si ça marche, peut-être je vais faire fortune. Mais si ça ne marche pas, je me retrouve avec absolument rien à 24-25 ans. » Bien, ils prennent le 300 000, le 400 000 $ qui est un...
Quand tu as 17, 18... C'est un beau cadeau.
Ben, c'est un beau cadeau. Puis
quand
tu
n'as pas une scène. Ben,
voilà, exactement. Sauf que, ben, tout à coup, si tu réussis, ben, là, il va falloir que tu donnes
Il leur doit 34 millions.
27 millions de dollars. 27 millions de dollars. Puis c'est une compagnie qui, pour eux, c'est
un beau pari
de
pour cette compagnie-là.
Ils disent qu'ils investissent, puis qu'ils voient ça un petit peu comme, tu sais, des fonds d'investissement là, qui investissent dans des sociétés de technologie, par exemple.
Dans des startups.
Ouais, ils vont investir, disons, dans une dizaine de ces startups-là. Personne ne s'attend à ce que les 10 fonctionnent. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y en ait peut-être une qui soit pas pire, puis une qui explose puis qui devienne une grande réussite. Bien, eux, les propriétaires de l'entreprise qui donnent l'argent, ils ont exactement le même principe, c'est le même raisonnement. C'est bien que sur tous les joueurs à qui on va donner de l'argent, la majeure partie, ça ne fonctionnera pas. Mais s'il y a un Fernando Tatis qui touche le gros lot, là, on va commencer à faire de l'argent et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une tendance lourde dans le baseball majeur, ça, maintenant.
C'est ça qu'on appelle la payola?
Non, parce qu'au fond, il y a un échange de bons procédés. Le joueur, il a obtenu, Tatis, il a obtenu 350 ou 400 000 $ US quand il était très jeune. Puis à ce moment-là, ça faisait son affaire. Puis s'il n'avait pas réussi sa carrière, si sa carrière s'était terminée, puis qu'il n'avait pas atteint les majeurs, ben, il n'y aurait pas eu de dette envers ces gens-là.
Très bien.